c'est un mot qui reste relativement tabou. Vous avez une double honte le jour où vous êtes en dépression. Vous avez premièrement la honte de vous-même parce que vous prouvez que vous n'assurez pas. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous avez été. Et cette réalité fait que vous avez honte de dire « je suis en dépression ». C'est très rare les gens qui viennent vous voir en disant « comment ça va ? Ah, je suis en dépression ». Ils vont, parce qu'ils sont chrétiens, ils vont d'abord dire « ça va bien, frère. Ça va bien. Enfin, et c'est à vous de creuser. Ça va vraiment par la grâce. » Et ça veut dire quoi, par la grâce ? Ben, en fait, ça va pas très très bien. Et vous vous rendez compte, si vous creusez, que ça va très mal, en fait. Première honte, la honte de dire qu'on va pas bien. La deuxième honte, c'est, vu que je suis chrétien, et que c'est Dieu qui est numéro un dans ma vie, quelque part, je vais ternir la réputation de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de plus fin, ça. C'est-à-dire que non seulement il y a votre culpabilité à vous par rapport à vous-même, vous vous décevez vous-même, mais vous avez peur que les personnes autour de vous soient déçues de Dieu si vous dites que vous n'allez pas bien. Parce que ça veut dire quelque part que votre Dieu ne fait pas son travail dans votre imaginaire pour vous. Et vous êtes des fois plus soucieux de la réputation de Dieu que votre réputation à vous parce que vous êtes un chrétien. Et justement parce que vous êtes chrétien, c'est plus dur. Vous avez donc une double honte. Alors que je me suis engagé avec Dieu, que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, dirait Élie, dans mes combats pour Dieu, et merci Dieu pour ses victoires extraordinaires, je dois faire attention parce que mon principal ennemi, il n'est pas en face de moi. Mon principal ennemi, il est à l'intérieur de moi, c'est moi-même. Mon principal ennemi est un ennemi intérieur. On ouvre donc dans 1 roi au chapitre 19, au verset 1er, et j'en profite pour vous demander de couper vos portables s'il y a des portables allumés. 1 roi, chapitre 19, au verset 1er. Acab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Oh, que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop !» dit-il. « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. On va s'arrêter là pour l'instant. Notre Père, conduis ce temps, vraiment, que cette méditation soit en profondeur. Seigneur, donne-nous de dépasser tout ce qui peut être un cliché, tout ce qui peut être une protection pour ne refuser de recevoir cette parole. Je te prie pour que tu puisses te faire un passage dans les cœurs en cet instant. Que la parole de Dieu fasse autorité dans un cœur qui est venu pour ce matin entendre ton message. Et c'est ce message que je veux délivrer ta part. Alors, loin-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Savez que en tant qu'être humain, on est trois choses. On est un corps. Vous êtes fait de tissus, de membranes, de cellules. Vous êtes un corps. Mais la Bible dit aussi qu'on est une âme. On est fait de sentiments, d'émotions. Et Dieu sait, et vous aussi d'ailleurs, que les sentiments, les émotions, des fois jouent aux montagnes russes. Et on est aussi un esprit. Et l'esprit, c'est ce qui nous rattache à Dieu. En fait, le corps, pour bien dire les choses, c'est ce qui vous permet d'avoir conscience du monde dans lequel vous êtes. Si jamais je suis en train de faire chauffer quelque chose sur le feu, je touche la casserole, mon corps me dit « Ah, il ne fait pas ça !» C'est mon corps qui me donne la perception du monde extérieur. Mon âme, votre âme, c'est ce qui fait qu'un jour, alors vous êtes seul dans votre chambre, qu'il ne se passe rien dans le monde extérieur, vous êtes en train d'éprouver des sentiments de tristesse, de joie, de colère, de rejet, d'abandon. Tous ces sentiments-là, c'est des sentiments de l'âme. Et l'âme, ce n'est pas la perception du monde extérieur. L'âme, c'est la perception de vous-même. C'est votre conscience de vous-même. Le corps, c'est la conscience de ce qui est extérieur. L'âme, c'est la conscience de soi-même. Comment je vis ? Je vis dans un corps. J'ai une âme. Et je suis esprit. Le troisième point, je suis esprit. Dieu dit, Dieu est esprit. et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Et ne mélangez pas ça avec l'âme, c'est quelque chose qui s'appelle l'esprit. L'esprit, c'est ce qui témoigne que je suis enfant de Dieu. L'esprit, c'est ce qui en moi, c'est la conscience de Dieu. C'est ce qui me rend, qui me permet d'avoir une perception de Dieu. L'esprit, c'est ce qui est éternel. Mon corps va rester un jour dans une tombe, va disparaître, va être réduit en poussière. Mon âme, l'âme n'est pas éternelle. Mais l'esprit est éternel. Que vous réalisiez bien que c'est votre relation avec Dieu qui est éternelle. C'est votre relation avec Dieu. Le corps, vous allez avoir un corps tout neuf au ciel. Hein. Vous allez être content. Si seulement vous voyez ce que c'est super. Des tissus comme les anges, angéliques. Je ne sais pas si vous allez traverser les parois et tout. Enfin, ça va être extraordinaire. Mais votre esprit est éternel. Et c'est cela que le diable veut toucher. Il veut toucher l'esprit qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre relation avec Dieu. Et moi, je vais voir pourquoi ce matin, Élie va pas bien. Élie va pas bien dans son corps. Élie va pas bien dans son âme. Élie va pas bien dans son esprit. Et je voudrais démarrer par ce point-là. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit, ne cherchez pas, je vous le lis, que la paix de Dieu vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Certains comprennent qu'il garde votre être tout entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Le corps physique, soma en grec, l'âme, c'est psychologique, psyché, et l'esprit, ce qui est le souffle, la spiritualité, la relation avec Dieu, pneuma. Si un de tes aspects ne vont pas bien, tu es en danger. Si ton corps ne va pas bien, tu es en danger. Imaginez quelqu'un qui a un mental d'acier, une âme solide, quelqu'un qui est intouchable. Il a une bonne relation avec Dieu. Mais il ne fait pas d'exercice physique, il ne pourra pas porter la prédication, hein. Au bout de 20 minutes, le pasteur va être tout essoufflé parce qu'il n'aura pas pris soin de son corps. Si votre corps ne va pas bien, ça va limiter le reste. Si vous avez un corps en pleine santé, vous êtes un athlète, vous faites du jogging mieux que Sarkozy tous les jours. Et avec tout ça, vous dites « Ah, je suis bien !» Mais je peux vous dire une chose. Si intérieurement, dans votre âme, vous êtes fragile, dès que la personne qui est en face de vous va vous critiquer « Oh, elle m'a mal regardé !» Vous allez vivre des tourments intérieurs. Si un des trois aspects, que votre corps, votre âme et votre esprit ne va pas bien, alors vous imaginez pas qu'on c'est cumulatif. Et pour Élie, c'est cumulatif. Alors on commence. Un esprit, l'esprit d'Élie, un esprit menacé, sa relation avec Dieu est en danger. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Oh que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne te fais pas subir le sort que tu infliges à chacun de ces prophètes !» Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Première chose que je voudrais voir par rapport à votre esprit. Vous êtes sensible aux mots. Je ne sais pas comment il faut l'écrire, mais les deux peut-être. M-O-T, vous êtes sensible aux mots. Votre esprit est sensible aux mots que vous entendez. Et ça provoque des mots, M-A-U-X, dans votre esprit. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est quand même étonnant. Élie, il n'a pas eu peur de 450 prophètes de Baal qui voulaient sa peau. Il n'a pas eu peur d'être en face d'Akab. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il est allé au Carmel. Seul contre tous. Il avait 450 prophètes en transe démoniaque qui étaient en train de se faire des incisions. Donc il y avait des épées, des lances, etc. Il était quasi mort. Et il n'avait pas peur. Et je me rends compte qu'une femme, pardonnez-moi mes sœurs, hein, mais des fois vous avez des capacités dans vos paroles, et puis les frères aussi, hein, mais en quelques mots, Jézabel l'a mis KO. Avec les paroles de ta bouche, tu peux tuer quelqu'un. Et vous voyez ce qui est étonnant, c'est que votre esprit est sensible à ça. Et Élie, elle ne l'a pas touché, elle ne l'a pas frappé, elle ne l'a pas battu, elle l'a menacé. Et il est KO. Vous vous rendez compte de ça? Une parole dans ton esprit et ton esprit qui mouline cette parole peut te faire plus d'effet que si la chose était réellement arrivée. Des fois, ce que tu crains va te briser plus que ce qui pourrait t'arriver de mal. On est vraiment des êtres, notre esprit, il faut faire attention. Je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois d'aller au travail, la peur au ventre, quand le ventre fait des bulles là, parce que vous avez peur de qu'est-ce que la collègue ou qu'est-ce que le patron va dire. Et des fois, même la peur de ce qui va être dit vous rend plus malade que ce qui s'était dit. D'ailleurs, vous vous rendez compte, le jour où la personne est vraiment méchante avec vous, finalement, ça ne vous tue pas. Mais votre peur vous fait plus de mal que ce qu'elle vous a dit. Vous comprenez ça? Méfiez-vous, parce que vos mots, de vos paroles, et vous, entre chrétiens, peut-être pour ceux qui ont des familles chrétiennes, de la façon dont vous vous parlez les uns les autres, parce que vos paroles touchent l'esprit. Vous savez, la parole, c'est quelque chose de puissant. Il est dit, au commencement était la parole. Et sur la parole de Dieu, il eut un jour, un matin, un soir, il eut un second jour, etc. Et la parole de Dieu, c'est le pouvoir des mots, on ne se rend pas compte. Et Élie, il est quasi mort là, avec une parole de Jézabel. Il ne s'est rien passé, mais il souffre pire que si cela lui était arrivé. Et je voudrais vous dire pourquoi cette parole est dangereuse pour ton esprit. Parce que cette parole va dérouter Élie. Et suivez bien là. Cette parole qu'il a entendue là, va le dérouter. Il savait où il allait. Il suivait Dieu. Il avait confiance en Dieu, il focalisait sur Dieu. Il était concentré sur Dieu. Il allait voir le Dieu qui donne la pluie, il disait « Dieu donne la pluie, Dieu donnait la pluie ». Il allait voir le Dieu qui disait « Les corbeaux vont te nourrir aujourd'hui », il disait « Seigneur, je te remercie pour l'assiette qui vient ». Il était celui qui avait une confiance en Dieu inébranlable, telle qu'il pouvait dire à cette femme de Sarepta « La farine et l'huile ne s'arrêteront point ». Et il disait lui-même de la parole, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse et qu'il pleuve. Il savait tout ça. Mais vous voyez, la parole de cette femme est venue comme percutée, comme un accident de travers. Et ça a sorti Élie de sa trajectoire. Je voudrais te dire quelque chose de la part de Dieu. Les paroles que tu entends, méfie-toi, parce qu'elles peuvent toucher ton esprit, te sortir de ta trajectoire. Tout d'un coup, tu vas focaliser sur ce que la parole de cette femme, des mots que cette femme a dit, au lieu de focaliser sur Dieu. Il devient, vous voyez, son focalisation, il passe de « j'ai confiance à Dieu » à « qu'est-ce qui se passe ?» Il est menacé. Et cette parole le dévie et son regard quitte le fait de regarder Dieu et il regarde sa situation et il est en panique. Comme l'apôtre Pierre, vous savez, quand il sort de la barque, tant qu'il focalise en face et qu'il regarde vers Jésus, il marche, quand il regarde ses pieds, il est mort. Parce qu'il s'enfonce. Ne te détourne pas. Le diable veut te dérouter par des paroles de Dieu. Toujours dans ton esprit, je voudrais te dire que Élie, deuxième point, Élie, le combat, il ne le voit pas. Peut-être dis à ton voisin, tes problèmes ne sont pas comme tu crois. Ils ne sont pas là où tu crois. Les problèmes ne viennent pas de là où tu penses. Son problème n'est pas que Jézabel. Vous savez pas quoi ? Satan est déguisé en Jézabel. Est-ce que tu réalises ça ? Quand tu comprends que Satan se déguise, il peut même se déguiser en ange de lumière. C'est que Satan cherche des personnes par lesquelles il puisse s'infiltrer. Et des fois, tu es en train d'être en panique, tu cries à Dieu, mais pourquoi, etc. Et Dieu peut te dire ce matin, mais cette personne qui te fait autant de mal, réalise en fait que c'est le diable qui essaie de t'atteindre par elle. Cette personne n'en est pas après toi. C'est le diable qui est derrière tout ça et qui cherche par des mots à atteindre ton esprit. Élie, Jézabel, c'est l'extérieur, mais l'intérieur, il y a une parole démoniaque. Et vous voyez, Élie, étant donné qu'il a été dérouté, il n'est plus sur son terrain. Regardez, il est où au moment où je parle? Vous avez connu Élie dans le torrent à Kérit. Vous avez connu Élie, si vous étiez là avant, à Sarepta, à Sidon. Et il était à Sidon, dans un endroit au cœur de l'ennemi dans le territoire de la reine Jézabel et il était en sécurité. Mais là, il n'a pas prévu. Vous savez qu'il a couru devant le char d'Élie. C'est ce qu'on a, on s'est quitté comme ça la semaine dernière. Il a couru et il est arrivé où ? Il est arrivé à Jizréel. Il est dans la ville d'Akab. Et tout d'un coup, il réalise qu'en fait, il n'est pas sur son terrain. Et il ne sait pas que Dieu est le maître de tous les terrains. Mais comme lui ne retrouve pas ses repères traditionnels, il ne retrouve pas son petit ruisseau qui coule, il ne retrouve pas cette veuve à côté, il voit tout d'un coup qu'il y a plein de chars, de chevaux, qu'il y a des tours, qu'il y a le roi qui est derrière, et là il est en panique. Il est en panique et il dit « je ne maîtrise pas ça ». Il y a une guerre derrière tout ça. Il y a une guerre spirituelle. On lit dans Éphésiens 6, verset 10. Il y a une guerre derrière tout ça. Ah, si seulement tu pouvais comprendre ce que Dieu veut te dire ce matin, tu relativiserais beaucoup de choses. Éphésiens 6. Vous avez de la chance, parce que vous pouvez lire cette parole de Dieu, et Élie n'a pas pu le lire, il n'avait pas encore ce texte. Éphésiens 6, vous devriez le connaître par cœur. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi... endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir debout jusqu'à ce que, après avoir fait tout ce qui est possible, tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dernier point par rapport à son esprit, vous voyez, l'esprit c'est une épée. L'esprit c'est une épée. Et le problème d'Élie, c'est qu'il est en train de fuir au lieu de se battre. Et tant qu'Élie est en train de se battre, il a la maîtrise. Mais là, il est parti sur la défensive. Il est uniquement dans la défensive, au lieu de dire en face de Jézabel, toi, tu peux rien faire. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Tu as envoyé 450 prophètes, ils sont tous HS. Tu peux rien faire, si ce n'est ce que l'Éternel te donne comme autorité. Et si l'Éternel ne t'a pas donné le pouvoir de toucher à ma vie, je risque rien. Donc tout est une question entre moi et Dieu. Mais seulement là, il est en fuite. C'est la première fois qu'il fuit. Et il désespère. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Son esprit ne va pas bien, mais son corps non plus. Regardez, verset 4. Puis il s'enfonça dans le désert, et après avoir marché toute la journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Est-ce que vous êtes fatigué ce matin ? Il fait un peu chaud, peut-être. J'ai passé une nuit assez sportive. Et ça joue sur votre morale et ça joue sur votre esprit. Quand votre corps est fatigué, il y a des conséquences sur le reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était la journée d'hier ? Pas la vôtre, hein, pardon. Celle d'Élie. C'était quoi la journée d'hier ? Vous vous rappelez, c'était quoi sa journée hier ? Quand Élie est KO sous le genêt, quelle était sa journée hier ? Hier, il s'est levé, je ne sais pas, à 4h à 5h du matin. Il est allé sur le mont Carmel. Il a été brûlé au soleil toute la journée. Et il a tenu bon. À midi, les prophètes étaient toujours en train de vociférer, de crier, et Élie était en train de les charrier en disant « Criez plus fort !» Il a donné hier. Il a donné hier. Le soir, après une journée épuisante, et que le Seigneur ait répondu par le feu sur l'autel. Élie, il est fou. Il est fou, mais tellement il était enflammé pour Dieu, il s'est fait un demi-marathon. Je ne sais pas si c'était nécessaire ou pas, mais il s'est fait un demi-marathon. Il a dit à Acab, je vais te griller à la course sur ton char. Tu prends ton char, j'arrive avant toi, Jisraël. Et il a couru 27 kilomètres, comme un malade. Il a été plus vite que le char de Acab. Sauf que ça laisse des traces. Le lendemain d'un marathon, regardez comment vont vos jambes. Surtout que je lis là, c'est qu'après le marathon de la veille, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti. Non, mais vous imaginez, il est parti de Jisraël au nord d'Israël. Il a traversé toutes les montagnes d'Éphraïm, il est descendu, il va vers Beersheba, vers le sud. Il a déjà fait 40 ou 50 kilomètres dans la journée sans s'arrêter. Alors vous trouvez drôle ? Ben non. Du coup, quand il arrive sous le genêt, là, entre ce qu'il a fait hier et la journée d'aujourd'hui, il est épuisé. Il est épuisé. Et cela a des conséquences sur ton esprit et sur ton âme. Il est cuit. Il est vidé. Je pense que c'était peut-être la journée de trop. Vous voyez, il y a des efforts qui sont inutiles et que l'on fait. Mais s'il avait focalisé sur Dieu, c'est facile de le dire hein, de ma part, je ne prends aucun risque. Hein. Des fois, on juge les autres, c'est facile. Mais si au moment où Jézabel l'avait menacé, il était resté de marbre, bien dans ses baskets, comme on dit, il aurait évité une journée de trop. Il serait resté tranquille, il serait mis à l'abri, dit Seigneur. Tu me protèges. Mais voyez, sa fuite lui a fait faire encore plus d'efforts qu'il ne pouvait faire. Et il arrive sous un genêt, la canicule. Ça a frappé encore toute la journée. Je ne sais pas combien il fait de degrés là. Mais même à l'ombre en Israël, lorsque vous êtes dans le désert de Juda, il fait chaud. Et il fait super chaud. Et même si c'est quelqu'un qui est habitué à la dure, parce que c'est un prophète, je vous rappelle, qui vient des monts de Galaad, donc il est habitué à la dure. Mais là, il doit être, il est éreinté, il est sous le genêt. Et la Bible, tous les détails sont importants. Vous savez pourquoi la Bible dit que c'est un genêt ? Ben, c'est parce que, bon, vous avez compris qu'il cherchait de l'ombre. Il cherchait de l'ombre pourquoi ? Parce que le soleil devait lui faire tourner la tête, il était à la limite de l'insolation. Mais surtout, parce que dans le désert, les genêts, c'est les endroits normalement où vous avez plus de chances d'avoir une petite mare d'eau. Et comme il a plu la veille, etc., il s'est dit, peut-être qu'au bord du genêt, il y aura quelque chose à boire. Et je vais peut-être être au frais. Et la Bible ne nous mentionne aucune eau. D'ailleurs, l'ange va gérer après en lui apportant ce qu'il faut. Mais vous voyez, il est fatigué, il arrive, son corps a faim, son âme a soif. Et il n'y a rien. Déception. Alors je conclue ce matin par le troisième point. Est-ce que vous pouvez lire avec moi ? On a vu son corps, on a vu son esprit. Je voudrais vous parler de votre âme. Son esprit est menacé. Son corps est épuisé. Et son âme est déchirée. Il est déchiré à l'intérieur. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous êtes peut-être... pour ceux qui sont âgés au moins de 30 ans dans cette salle, vous arrivez à suivre ce que je vais dire. Les autres, je ne sais plus, puisque les dessins animés ont beaucoup changé depuis. Mais vous avez peut-être vu les Walt Disney. Vous savez, vous rappelez ce personnage très intellectuel qui est Pluto. Mickey Mouse est Pluto, vous rappelez le chien là. Et moi j'étais marqué quand j'étais petit parce qu'il y avait un Pluto qui était un ange et un Pluto qui était un démon. Ça vous rappelle pas ça? Il mettait un petit rond là au-dessus de Pluto quand il était un ange, tout blanc là. Gentil. Et puis il y avait son mauvais côté. Une partie de son âme qui va pas bien. C'était le trident, là, vous voyez, il est en petit diable. Et je me rappelle, ce chien, c'était intellectuel. Pour moi, j'avais 6 ans, c'était déjà compliqué de comprendre, mais j'avais bien compris que ça voulait dire qu'une même personne peut être déchirée entre deux extrêmes. Entre, il y a quelqu'un qui va bien, il y a quelqu'un qui va pas bien. Et c'est la même personne. Parce que le plus bizarre, c'est que c'est le même Pluto qui a ces deux aspects. Et peut-être c'est toi, je suis désolé, je ne veux pas t'offenser, hein, mais toi aussi, tu as ces deux aspects. Et tu sais pas quoi, tu amènes les deux à l'église. Et alors que tu es là ce matin, il y a les deux sur ta chaise. Pendant la louange, il y avait les deux. Il y avait une partie de toi qui était là, alléluia, et une partie de toi qui était, je suis cuit. Je laisse l'autre chanter, là. Il y a une partie de toi qui est là pendant la prédication, qui dit, ah Seigneur, il y a peut-être une pensée de Dieu. Puis il y a l'autre qui dit, mais tu connais déjà tout ça. Et vous avez ces deux aspects, et vous êtes déchirés. Et méfiez-vous parce que le diable va jouer là-dessus, sur cette déchirure qu'il y a. Il se rendit, et n'en rajoutez pas d'ailleurs des déchirures. Et l'erreur d'Élie, c'est qu'il va en rajouter. Il est dit, il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Quelle erreur! Quelle erreur! Pourquoi se fait-il qu'on fait tous la même bêtise? Lorsqu'on ne va pas bien, on se coupe des autres. Combien de fois je le fais alors que je sais que je ne devrais pas le faire? Quand tu ne vas pas bien, ce n'est pas par la solitude que tu iras mieux. Des fois, tu te coupes de la personne que Dieu a mis à tes côtés et qui peut t'aider lorsque toi, tu n'auras pas de force. Je ne sais pas si c'est parce qu'il se dit « je ne veux pas qu'il me voie dans cet état-là ». Parce que des fois, quand on va bien, on est fier de se montrer. Mais quand on ne va pas bien, on ne veut pas que notre conjoint voie qu'on ne va pas bien. On ne veut pas que nos enfants voient qu'on ne va pas bien. On ne veut pas dire à nos parents qu'on ne va pas bien. On préfère dire « toi, reste là, moi, je veux aller tout seul ». Vous savez ce titre qui dit « les oiseaux se cachent pour mourir ». Et c'est ce que fait Élie. Et c'est ce que tu as tendance à faire. Et à chaque fois que tu ne vas pas bien et que le diable arrive à te dire « seul, éjecte les autres autour. Ne va pas à l'église, ça va te faire du mal. Et puis ils vont voir que ton mascara, il coule. » Alors du coup, tu vas rester chez toi. Et là, tu es beaucoup plus sensible à la dépression. Tu ne peux même pas imaginer, Élie, combien ce jeune serviteur qui peut-être n'est pas un héros spirituel, mais en ce moment-là, sa simple présence peut te sauver la vie. Et il se coupe des autres. Premier aspect de la déchirure. Deuxième déchirure émotionnelle dans son âme, c'est qu'il a fait des montagnes russes. J'écoutais quelque chose de T.D. Jakes que j'écoute beaucoup et un pasteur extraordinaire. Il disait, dans notre âme, il y a parfois un trou. Regardez, vous êtes des êtres psychologiques. Dans la poche de votre cœur, des fois, il y a des trous. Et lorsque vous êtes dans cet état-là, quand il y a un trou comme ça, on a beau vous rajouter de l'amour à l'intérieur. S'il y a un trou, ça coule à côté. Et pour certains d'entre vous, vous avez un trou dans votre cœur. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le jour où Élie va se rendre compte qu'il a un trou dans son cœur. Il a un sauveur merveilleux. Dieu est esprit et Dieu est avec lui. Il a un corps qui est un peu usé là. Mais surtout, il a une âme qui a un trou dans son cœur. Jézabel l'a décentré et son âme est en train de se vider de l'intérieur. Vous savez que des fois, je parle pour toutes les personnes qui, ce matin, vous ne vivez pas bien et vous dites, mais il n'y a personne qui m'aime. Pourquoi mon mari n'a pas les mots pour me dire qu'il a de l'attention pour moi? Peut-être c'est toi, en tant qu'homme, tu vas dire, oui, mon épouse, elle me touche plus jamais, elle est loin maintenant, elle est plus du tout comme avant, etc. Tu as un trou dans ton cœur. Tu peux lui chanter une chanson, hein? Tu as un petit trou dans ton cœur, chérie. Et le problème, c'est que vous avez beau en remettre, si la personne n'est pas guérie, ça peut fuir à côté. Alors, je vais vous dire quelque chose ce matin. Regardez le vase de votre vie et regardez là où ça fuit. Parce que, surtout si vous avez des talents, même si vous êtes très fort, même si vous pensez que vous êtes une femme solide ou un homme solide, il y a souvent en vous un petit trou. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce matin? Quel est le trou qu'il peut y avoir dans mon cœur? Vous savez, les artistes, les plus grands artistes, ceux qui font les meilleurs concerts, quand vous regardez leur âme, ils ont souvent des grandes fissures. Quand vous voyez les personnes comme Whitney Houston, etc., c'est des personnes qui paraissent extrêmement fortes. Comme Johnny Hallyday, il est capable d'enchaîner des heures de concerts. Alors qu'il est malade, alors qu'il ne va pas bien, il est capable d'être devant de la scène et tout donner. Mais vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que des fois, plus vous êtes fort, plus le trou est grand. Et d'ailleurs, c'est peut-être un autre aspect des choses, mais c'est vos faiblesses, vos fissures intérieures qui font aussi votre sensibilité et qui vous donnent la capacité de donner autant. En général, c'est les personnes qui ont des fois le plus de problèmes qui savent parler le mieux. Vous allez dire, oh, le pasteur, il est dans quel état? Si jamais je parle mal ou si j'aurais presque intérêt à rater ce message dans ce cas-là ce matin. Mais vous voyez, des fois, on parle très très bien de quelque chose parce que il y a eu des fissures. Et oui, c'est vrai. Je pense que tout homme et toute femme de Dieu, et j'en ai pas honte, il y a eu des fissures. Quand je vois l'apôtre Paul qui dit un moment dans sa vie, les épreuves étaient tellement fortes que je suis en venu à désespérer de la vie. Apôtre Paul. Moïse, t'es prêt à tout abandonner? Seigneur, méfie-toi quand tu pries. Seigneur, donne-moi un grand ministère, un grand appel. Méfie-toi parce que t'as intérêt d'avoir un vase solide derrière. Parce que le diable connaît les super talents que Dieu t'a donnés et les petits trous qu'il peut y avoir dans ton cœur. Je voudrais vous dire ce matin qu'après un temps, mais ça vous le savez déjà, un temps aussi fort que le Carmel, après avoir été sur la montagne de Dieu, pour tous les jeunes qui sont là au DNJ, c'est important d'écouter ça. Toutes les personnes qui ont vécu un temps de fort avec Dieu, la descente est toujours dure. Mais c'est toujours dur partout, tout le temps. Et pour tous les hommes et pour toutes les femmes, de toute nationalité, de toute ethnie, de toute culture. Votre descente après un moment de réussite. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez tout donné, comme Élie a tout donné au Carmel, vous avez tellement focalisé là-dessus, il s'est préparé pendant 3 heures et demie. Pendant 3 heures et demie, il dit, Seigneur, s'il te plaît, fais descendre le feu sur l'autel. Et le jour J, il s'est levé tôt, il a assuré toute la journée, il a été capable de construire cet autel, il a couru devant un câble, il a tout basé là-dessus. Mais il n'avait pas prévu l'après. Il n'a pas anticipé l'après. Il a tellement usé de l'énergie. Il a tellement usé de l'énergie. Et je peux vous dire une chose, le Carmel, c'était le sens de sa vie. Et c'est mon dernier point, mais c'est peut-être le plus important ce matin. Pour toute personne qui a vécu un moment fort dans sa vie, vous avez peut-être atteint les limites de là où Dieu vous voulait vous amener. Oh! Peut-être tu as connu une église dans laquelle tu étais exalté. Tu as donné pour cette église. Tu as donné pour le service de Dieu. Tu as fait le maximum. Et t'as tellement usé d'énergie là-bas que après il y a comme un sas de décompression. Tu ne reconnais plus tes jambes. Tu ne reconnais plus ton zèle. Là, tu étais capable de faire 10, tu fais plus que 1. Là, tu étais capable de donner 8, tu donnes 1. Là où tu étais capable d'encourager les autres, tu n'es plus capable. Tu es en décompression, ça s'appelle la dépression. Vous voyez, c'est une forme de dépression spirituelle. Et pourquoi? Écoute ça, Élie. Écoute, Élie, toi qui es un champion de Dieu, Dieu a peut-être un nouveau plan, une nouvelle étape dans ta vie. Si Élie reste dans l'exaltation du Carmel, et c'est peut-être l'erreur de beaucoup de chrétiens, quand ils vous racontent les histoires, ils vous racontent des histoires au passé. Et je voudrais te dire avec beaucoup de respect, mais ton histoire, c'est pas que ton passé. Parce que tu es en vie aujourd'hui, Élie. Et je suis sûr que même si tu es sous ton genêt, en train de demander la mort, il y a un Dieu qui a prévu un avenir. Mais tu es focalisé sur qu'est-ce que tu as été. Tu dis, mais dans cette église, pasteur, si vous saviez, tu as été. Mais c'est bien, tu as donné toutes tes forces, et tu sais pas quoi, Dieu a apprécié ce que tu as fait. Parce qu'au Carmel, le peuple a été touché, la gloire de Dieu est descendue. Et Dieu a mis de côté le Carmel. Ne crois pas que Dieu fait comme si c'était rien. Dieu dit, c'est enregistré, c'est mis de côté, c'est au ciel. Toutes les œuvres bonnes que vous faites sur la terre sont enregistrées, c'est mis au ciel, c'est empaqueté, c'est dans la banque. Le dépôt est garanti. Beaucoup mieux que dans les banques françaises ou avec l'euro. C'est mis en banque au ciel. Maintenant, il y a peut-être une nouvelle étape dans ta vie. Arrête la nostalgie de « Mais Seigneur, c'est fini, je fais quoi maintenant ?» Toute sa vie, il s'est préparé pour le Carmel. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Moi, je sais très bien que le moment, la pire année de ma vie, c'était l'année après avoir eu ce bâtiment. Je peux vous le dire vraiment. Hein. J'ai tellement brûlé de gaz, si vous comprenez. J'ai tellement usé de pétrole, de fuel pour pouvoir arriver jusque-là. On a tellement été visiter des bâtiments, on a tellement fait des plans de financement, t'as peut-être tellement donné d'énergie pour ton travail, pour ta maison, pour ton mariage, qu'une fois que tu l'as, t'as plus rien. Moi, quand j'ai eu ce bâtiment, c'était comme une grande décompression après ça. Parce que je dis, Seigneur, j'ai 29 ans, je vais faire quoi de ma vie? Toute ma vie, je m'étais dit, Seigneur, le rêve, c'est d'avoir, vous savez, un petit peu comme tous les... Après, vous vous appliquez avec vos rêves, hein. Mais les églises en France, quand elles atteignent 300 personnes, waouh, on est là, super et tout, c'est l'objectif, il y a des pasteurs qui vivent que pour ça, et si à 60 ans, ils atteignent ça, ils sont super heureux, ils disent, alléluia, je pars en retraite. Moi, mon problème, c'est qu'à 29 ans, je me suis dit, Dieu m'a fait un cadeau que je m'attendais à avoir à 65 ans. Alors, quand Dieu vous donne quelque chose, un Carmel, lorsque vous êtes jeune, qu'est-ce que vous faites après? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais peut-être ton objectif professionnel dans ton entreprise, t'as monté, mais t'as bien monté, tellement bien monté, parce que là, Dieu t'a béni, que tout d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire de plus? T'étais dans la louange, t'as été leader louange, t'as monté, t'as travaillé. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais apprendre de plus maintenant? Méfiez-vous, parce que c'est à ce moment-là que le diable vous met les idées noires et commence à vous dire, mais voilà, il n'y a pas d'avenir. T'as tout donné, c'est fini. Et Élie, lorsqu'il demande la mort, c'est pas qu'un suicide, c'est qu'il dit, Seigneur, je ne cherche plus à rien. Seigneur, honnêtement, je te comprends si tu m'enlèves la mort, la vie. Tu me reprends avec toi parce que je ne cherche plus à rien. Peut-être c'est ça que tu as dit cette semaine. Peut-être tu as dit, Seigneur, voilà, je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'elle est finie. Alors regardez ce que Dieu te dit. Je vous quitte là-dessus et je demande aux musiciens peut-être de venir sur le devant. Il n'y a rien de pire que les périodes de transition. Il n'y a rien de pire que les périodes de transition. C'est les périodes les plus dures de votre vie. Quand vous êtes entre deux, vous n'avez pas encore quitté le Carmel dans votre tête et vous n'êtes pas arrivé à Horeb. Vous êtes entre deux. La Bible dit, verset 5, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se leva et repartit à fond. Non. Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Vous savez pas ce que je vois là-dedans? C'est que Dieu va le servir deux fois. La première fois que Dieu lui apporte les petits gâteaux, c'est comme moi ce matin peut-être, je vous apporte, c'est pour guérir de votre passé. C'est pour le restaurer de son passé. Parce qu'il a fait simplement des journées de folie avant. Et Dieu dit, je t'amène du pain et je t'amène de l'eau. Et Dieu le laisse redormir derrière. Hein. Vous avez vu, Dieu est bon, hein, le tact de Dieu, hein, il est bon. Hein. Un pasteur lui redit, allez, mais remotive-toi, mauvais chrétien. Non, Dieu lui dit, allez, je t'amène servi au petit déjeuner. Gratuit, maître d'hôtel, un ange. Tu veux dormir? D'accord, un peu encore. Vous voyez, parce que Dieu te laisse le temps de guérir de ton passé. Peut-être pour certains, je ne veux pas faire un raccourci. Vous avez peut-être cette prédication, c'est un des aspects du gâteau que Dieu peut vous dire, mais c'est bien ce que tu as fait dans le passé. Et tu as besoin de reprendre des forces pour ce que tu as fait. J'accepte que tu sois en transition. Mais vous voyez, je bénis Dieu parce qu'il va venir le resservir. Et vous avez vu le deuxième gâteau, c'est pourquoi? Quand Dieu va le resservir, pourquoi Dieu le resserre? Parce que le premier gâteau, c'est là d'où tu viens. Le deuxième gâteau, c'est pour là où tu vas. Le premier gâteau, c'est pour retrouver ton énergie. Le deuxième, c'est pour t'en donner. Parce que le chemin serait trop long pour toi. Il y a des projets que Dieu a pour ta vie. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu es là. J'ai besoin de toi. Peut-être quelqu'un a besoin de Dieu ce matin. Peux-tu crier à Dieu quand j'ai besoin d'amour, d'espoir? Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin de consolation? Ton corps est épuisé, ton âme est déchirée. Ton esprit est menacé, il y a des paroles qui tournent dans ta tête. Seigneur, tu es là. Alléluia. Élie n'a même pas vu qu'un ange l'avait servi la première fois. Il a simplement vu le gâteau et la cruche. Peut-être ce matin tu dis, bon, il y a déjà un petit bout de gâteau. Tu vois même pas que c'est Dieu qui te parle. Tu discernes même pas l'action de Dieu là-dedans. Et je peux te dire, l'ange revient. Alléluia.